Nous avons avec vous, avec nous, M. Jean-René Bélanger, directeur général de la société IMECA, une société de Sherbrooke qui, justement, travaille dans un secteur d'expertise assez pointu pour créer de l'imagerie qui permet de mieux détailler le cerveau et ainsi comprendre comment soigner ou guérir des maladies neurologiques comme l'Alzheimer et la sclérose en plaques. Et IMECA est à la fine pointe dans le monde à ce sujet. Monsieur René Jean-René Bélanger, bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien, et vous?
Ça va très bien, merci. C'est un sujet qui est scientifique, qui peut paraître complexe, mais on va commencer par le commencement. Le cerveau n'est pas uniquement constitué de matière grise, il y a également ce qu'on appelle la matière blanche, qui longtemps a été un peu négligée du point de vue des scientifiques. On pensait que ce n'était pas vraiment important, alors que ce l'est beaucoup, et c'est à la matière blanche à laquelle vous vous intéressez.
Oui, exact. Dans le fond, chez IMECA, on a une technologie qu'on exploite, qui a été développée à l'Université de Sherbrooke par le professeur Maxime Descoteaux, qui est directeur scientifique chez IMECA. Et en effet, on s'intéresse à la matière blanche. Ça a été ignoré. Je pense pas nécessairement que c'est parce qu'on pensait pas que c'était important. Là, ça a toujours été considéré comme assez important. Par contre, il n'y avait pas les bons outils pour aller la regarder, puis aller l'analyser puis l'explorer. Donc, on avait comme un petit peu mis ça de côté, la matière grise étant l'endroit où est-ce que toutes les opérations dans le cerveau se passent. Puis la matière blanche, c'est les connexions, c'est tout le câblage cérébral. Puis c'était difficile de l'analyser puis de la comprendre en détail. Puis ben c'est pour ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on a développé cette technologie-là pour pouvoir le faire.
Parce que dans la matière blanche, il y a des filaments nerveux, si je peux dire, là, qu'on appelle des axones. Est-ce bien ça?
Ouais,
axones qui sont entourés de myéline. Et,
voilà.
Et qui est comme une sorte d'isolant, comme le caoutchouc qui serait autour d'un fil de cuivre, si on veut.
C'est ça, exactement. La myéline sert à ce que le courant passe bien. En fait, là, c'est une protection, c'est une gaine de protection qui est autour des axones. L'axone, comme vous avez très bien dit, là, qui est la partie allongée de la cellule nerveuse. C'est là que l'information se transmet, puis se transmet d'une cellule nerveuse à l'autre, puis le long de ces câblages-là. Puis la myéline est très importante pour bien pouvoir protéger ces câbles, puis faire transmettre l'information.
Et de voir qu'il n'y a pas une dispersion inutile du courant électrique non plus, parce que là, ce qu'il fait, c'est que si le courant électrique se disperse au lieu d'aller à sa destination, bien la connexion est moins bonne, et c'est là que les problèmes commencent.
Oui, vous voyez ça un petit peu comme une route, là, si tout se passe bien à Montréal puis à Québec, mais que l'autoroute 20 et l'autoroute 40 sont fermées les deux, où il y a des choses qui se sont passées, il y a un glissement de terrain ou ces choses-là, bien l'information ne se passera pas entre les deux.
Exact.
Ça va être difficile de pouvoir communiquer de cette façon-là.
Et votre technologie, donc, sert à pouvoir analyser ce qui se passe au niveau de la matière blanche.
Oui, exactement. Dans le fond, c'est une technologie qui est basée sur l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Donc, qui est assez, je dirais, utilisé là, dans des maladies comme la sclérose en plaques, notamment. C'est utilisé dans des diagnostics, notamment pour aller voir les lésions dans le cerveau, les plaques, là, analyser ces choses-là. Par contre, nous, on utilise d'une manière un petit peu différente. C'est des séquences d'acquisition, là, des façons d'utiliser la machine sont un petit peu différentes, qui est disponible sur toutes les machines IRM, mais que nous, on utilise, on exploite. Ça s'appelle l'IRM de diffusion. Donc, si on regarde un petit peu comment que les molécules d'eau dans le cerveau diffusent, puis on est capable d'analyser avec ça la matière blanche plus précisément, donc tout le câblage, on est capable d'aller, grâce à notre technologie, voir des éléments de microstructure, là, des éléments qui sont très, très microscopiques, même si on utilise l'IRM, en fait, qui est pas un microscope. Là, on est pas, ça reste quelque chose qui est assez, entre guillemets, grossier comme imagerie. Par contre, nous, on est capable, grâce à nos logiciels, d'aller regardez ce qui se passe au niveau de la microstructure. Donc, si on reprend l'analogie de la route, là, c'est un peu comme si, avec un satellite, on allait voir les nids de poules sur les routes.
D'accord. Donc, si vous avez une loupe grossissante suffisante, vous allez voir les nids de poules. Mais dans votre cas, vous utilisez aussi l'intelligence artificielle pour inférer qu'il y a un nid de poules.
Exactement. Donc, c'est le signal qu'on analyse qui... Puis on ne voit pas directement le nid de poule, pour refaire l'analogie, mais si les autos contournent le nid de poule, on est capable de dire...
Si les autos
contournent le nid de poule, on est capable de dire qu'il y a un nid de poule. Donc, c'est un petit peu ça l'analogie qu'on peut faire.
D'accord. Et maintenant, dans une poursuite plus pratico-pratique, votre façon de faire la cartographie, l'imagerie de la matière blanche, ben ça a des applications dans des maladies neurologiques.
Oui, absolument. Donc, vous l'avez dit tantôt, on l'a ignoré un petit peu la matière blanche dans l'analyse de ces maladies-là, notamment dans l'Alzheimer, qu'on a regardé beaucoup plus au niveau fonctionnel, donc matière grise, la fonction, regarder qu'est-ce qui se passait au niveau des centres de la mémoire, comme dans l'hippocampe, ces choses-là. Alors que nous, on pose comme théorie, comme hypothèse, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la matière blanche, puis beaucoup de choses qui se passent beaucoup plus tôt, en fait, que les autres indicateurs de la maladie. Par exemple, des pertes de volume intenses dans le cerveau, ces choses-là arrivent beaucoup plus tard, alors que nous, on est capable de dire dans la matière blanche, il y a des choses qui se passent très tôt dans le développement, même avant qu'il n'y ait aucun symptôme qui apparaisse. Donc des phénomènes très petits, très mineurs, mais qu'on peut capter grâce à nos outils. Puis des espèces de dénominateurs communs en fait dans beaucoup de maladies neurodégénératives. Là. On a parlé depuis tantôt Alzheimer, sclérose en plaques, qui sont en soi des maladies assez différentes, mais qui ont dénominateurs communs. Et aussi comme des maladies comme Parkinson ou la sclérose latérale amyotrophique, là, la maladie de Lou Gehrig, qui s'attaquent à différentes parties du cerveau, mais qui ont des mécanismes communs, comme par exemple la neuroinflammation ou on parlait tantôt de la myéline, donc la démyélinisation.
Les vecteurs de transmission de l'information voient leur gaine, d'isolation se défaire ou se désagréger. À ce moment-là, bien, le courant passe pas parce qu'il est mal diffusé.
Exactement. Donc, on voit ça particulièrement. Ça a été étudié depuis longtemps en sclérose en plaques. Il y a un aspect démyélinisateur, puis ça, bien, ça entraîne des cascades dans la maladie. Donc, il y a plusieurs traitements en ce moment là, qui visent à aller régénérer la gaine de myéline ou encore à améliorer l'intégrité des axones ou de la matière blanche. Puis ben nous, on devient un outil qui sert et à diagnostiquer ces maladies-là plus adéquatement et plus tôt dans le processus de développement de la maladie, mais aussi de pouvoir faire le suivi, donc le monitoring, le suivi de développement des maladies et de l'efficacité des médicaments.
Oui, c'est ça, de mesurer si le médicament touche sa cible, parce que les sociétés avec lesquelles vous travaillez, je pense qu'il y en a une qui s'appelle Atara, qui s'occupe entre autres de sclérose en plaques, une autre société californienne, Immune Bio, qui elle s'occupe plutôt de la maladie d'Alzheimer. Ils essaient de mettre au point des traitements et vous, essentiellement, vous les aidez à voir si ces traitements-là touchent la cible.
Exactement. Donc, si on prend par exemple la maladie d'Alzheimer, pour laquelle il n'y a pas vraiment de traitement, là, il y a un médicament qui a été approuvé récemment, mais qui est assez controversé quand même là, par Biogen. Ils veulent savoir s'il y a quelque chose qui se passe assez tôt dans le développement du médicament. En fait, un objectif, nous, ce qu'on développe, ça s'appelle des biomarqueurs. Donc, c'est un indicateur que la maladie progresse ou un indicateur que le médicament a un effet positif sur le cerveau. Donc, ces biomarqueurs-là nous permettent d'avoir des cohortes de patients dans les études cliniques qui sont plus petites, donc des plus petites cohortes pour pouvoir voir un effet plus rapidement. Donc, dans les faits INECA, ce qu'on essaie d'aider à faire, c'est accélérer le développement du médicament, s'assurer que les bons médicaments se rendent au marché plus rapidement et se rendent au marché tout court, en fait, parce que pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Donc, c'est des signatures qu'on est capable de montrer qui peuvent, évidemment, exactement comme vous avez dit, là, montrer que les médicaments touchent leur cible, puis on peut continuer le développement clinique de ces traitements-là.
Et pour des maladies qui sont assez diverses, parce que l'Alzheimer et la sclérose en plaques n'ont pas du tout les mêmes manifestations chez les personnes qui en sont atteintes. Là. Ça
ne
se présente pas du tout de la même façon. Mais pourtant, les deux, ont, entre autres, comme origine cette matière blanche là, que vous pouvez maintenant, je dirais, regarder, scruter.
Oui, bien absolument. Puis c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que dans cette recherche-là, puis dans ce développement-là, on peut trouver des mécanismes qui sont assez communs, en fait. La sclérose en plaques, évidemment, ça attaque beaucoup plus jeunes, les patients, principalement des femmes, puis à des stades, à des âges beaucoup plus jeunes. Alzheimer beaucoup plus vieux, évidemment. Sauf qu'on est capable de voir dans quelle région du cerveau. Ça a beaucoup rapport avec les régions du cerveau. Puis les manifestations vont se produire dans ces régions-là. Puis ça va affecter le cerveau d'une manière différente. Par contre, on est capable de voir qu'il y a des niveaux d'inflammation. Donc, on parle d'une réponse immunitaire possible du corps qui s'attaque lui-même à long terme au cerveau. Puis c'est là, c'est quoi l'origine de ça? Ben le guess de tout le monde est aussi bon que
oui. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est des conditions du milieu de vie qui ont fait qu'il y a une détérioration? Parce qu'il y a eu des études qui ont démontré que la matière blanche chez les jeunes pianistes prodiges se développait plus rapidement. Alors on peut penser que l'apprentissage a un effet aussi sur le cerveau.
Absolument. Puis ça, d'ailleurs, avec des techniques qui ressemblent beaucoup à ce qu'on utilise chez Imeka, on peut voir qu'il y a des connexions, des liens qui se font. Fait que c'est évident que, en fait, la réponse à ça est pas simple, sauf que c'est sûr que c'est une combinaison de tous ces facteurs-là. Donc, il y a des problèmes des facteurs génétiques, il y a des facteurs d'environnement, etc., de conditions de vie, c'est de milieux sociaux, etc. Juste la sclérose en plaques, par exemple, attaque dans les pays les nordiques. Le plus on s'éloigne de l'Équateur.
On peut se demander pourquoi, mais on va devoir s'en parler une autre fois, M. Bélanger.
Oui.
C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. C'est un sujet très intéressant. Merci d'avoir été là avec nous. Et puis, bonne chance dans vos recherches.
Merci.